Delphine Ferdeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous représenter en quelques mots pour nos auditeurs avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, la place dans la fratrie?
Oui, bien sûr. Je suis donc Delphine Fardeau. Je suis responsable de chantier éducation et c'est à ce titre que je peux vous proposer des sujets de réflexion que nous avons en général traités justement dans nos groupes de parole que sont les chantiers éducation.
Alors, nous vous écoutons sur notre thème d'aujourd'hui.
Oui, on entend souvent, c'est bien un petit dernier, effectivement, et intuitivement, on a l'impression que souvent la place dans la fratrie pourrait conditionner une partie des réactions de nos enfants. On peut entendre aussi, oui, vous savez, il n'a pas la place facile, c'est l'enfant du milieu. Alors qu'en est-il? Nous nous sommes posé la question en chantier et voici quelques échantillons de nos réflexions que je souhaite partager avec vous ce matin. Nous nous sommes effectivement demandé si certains des comportements de nos enfants pouvaient être dus ou pas à leur place dans la fratrie. Ainsi, une de nos mamans se rappelait les crises mémorables de son petit dernier, qui était tout à fait capable de se rouler par terre à la caisse d'un magasin parce qu'il comprenait soudain qu'on allait sortir du magasin sans avoir acheté le jouet qu'il convoitait ou tout simplement parce que on sortait du magasin sans avoir rien acheté. Effectivement, moi-même, ma dernière enfant, qui est une fille, a mis très longtemps à comprendre que, ou à accepter que l'on pouvait rentrer dans un magasin et en ressortir sans avoir rien acheté. Pour elle, à partir du moment où on entrait dans un magasin, eh bien, c'était pas juste pour voir ou pour voir si on trouvait quelque chose, non, c'était pour acheter. Alors évidemment, quand on ressortait sans acheter, c'était des crises, de larmes, de colère qui marquaient son incompréhension. Donc la question qu'on peut se poser, puisque moi je l'ai remarqué, c'était chez ma dernière enfant, est-ce que les caprices sont le privilège des petits derniers? Effectivement, c'est parfois ainsi que les aînés voient les choses. Oui, bah oui, c'est le petit dernier. Il fait tout pour se faire remarquer, et les aînés en sont parfois un petit peu jaloux ou c'est admis dans les familles nombreuses sur cette place du petit dernier et cette image d'Épinal a vécu. Peut-être que la réalité est un petit peu plus subtile. Ce n'est pas toujours le petit dernier. On peut se tourner du coup, c'est ce que nous avons fait, vers les spécialistes de l'enfance et on peut dire que leur expérience fondée sur le nombre de cas qu'ils ont vu défiler dans leur cabinet est tout à fait audible. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Évidemment, les caprices, comme beaucoup des comportements de nos enfants, sont en partie le fait de la personnalité propre de l'enfant. Objectivement, on peut savoir que tel de nos enfants était plus capricieux ou que celui-ci, au contraire, ne réclamait jamais rien. Mais la place dans la fratrie a aussi un impact, évidemment. En effet, qu'est-ce qu'on constate? Dans une famille, notamment dans une famille nombreuse, le dernier arrivé, parfois numéro 4 ou numéro 5, eh bien, il n'a pas d'autre choix que suivre le rythme, en quelque sorte. Les parents eux-mêmes peuvent être un peu débordés, ils ont le travail de la journée, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, il y a les devoirs du soir, il y a les bains, il y a la préparation des repas. Et on a déjà vu dans des familles très organisées, une maman tout à fait opérationnelle va très vite trouver des trésors d'imagination pour que le bébé, le dernier-né, prenne son biberon tout seul. Et ce seront des coussins empilés et autres astuces très inventives et efficaces pour que ce bébé puisse prendre son biberon tout seul. Donc, le petit dernier, parfois, peut avoir l'impression de grandir un peu dans son coin, notamment s'il a un décalage en âge avec ses autres frères et sœurs. Et les parents, tellement happés par le reste de la vie, vont peut-être accorder un petit peu moins d'attention à la Xème série des petits bonshommes ou des dinosaures qui ne ressemblent à aucune figure connue, alors même que peut-être sur le frigidaire familial trône encore le premier bonhomme, le premier dinosaure du premier-né. Donc, effectivement, le petit dernier peut avoir l'impression qu'on lui accorde moins d'attention, et ça peut être vrai, parce que tout simplement, les parents manquent de temps. Alors, que va-t-il faire, ce petit dernier ? Eh bien, il peut avoir la tentation d'attirer l'attention, justement, de ses parents pour qu'on s'occupe de lui. Et l'on sait combien un enfant qui veut attirer l'attention sur lui peut être imaginatif. Alors, oui, les caprices peuvent être un moyen d'attirer l'attention sur soi. Mais c'est peut-être aussi pas forcément attirer l'attention sur soi pour dire, mais simplement un signal. S'il vous plaît, occupez-vous de moi. Ou bien un autre signal, j'ai besoin de vous pour me fixer des limites, parce que je me sens seule, délaissée, un peu inquiet. Ça peut être une stratégie. Et puis il y a d'autres stratégies, bien sûr. Notamment, on dit souvent que les petits derniers sont les bouts en train, peuvent être des bouffons. Des pitres aiment beaucoup faire le pitre. Pourquoi ? Eh bien, peut-être que le petit dernier ou la petite dernière sentent bien que papa et maman sont tendus, qu'il y a eu des tensions entre les plus grands, peut-être des tensions à cause du travail à l'extérieur, peut-être une surcharge. Eh bien, pour détendre l'atmosphère, le petit dernier va ainsi faire rire ses parents. Et peut-être aussi, ça peut éventuellement être une stratégie pour gagner aussi l'amour, la tendresse de ses grands frères et sœurs, qu'il sent un petit peu jaloux à son égard. Et du coup, il va déployer des trésors de gentillesse, de drôlerie pour apprivoiser ses grands frères et sœurs. Une maman racontait ainsi que sa plus grande jouait de la musique et avait rejeté son dernier petit frère. Et en fait, quand le petit enfant avait grandi, il pouvait aller jusque dans la chambre de sa grande sœur et passer des grands moments à l'écouter faire ses gammes à la guitare. Et petit à petit, évidemment, la grande sœur a été touchée de cette attention de son petit frère qu'elle avait rejeté. Et c'est ainsi que le petit frère, grâce à son attention pour les gammes musicales de sa grande sœur, a fini par gagner son affection. Donc ainsi, on peut voir que ce petit dernier va être inventif pour tout aussi bien gagner la tendresse de ses grands frères et sœurs, l'attention de ses parents et tout simplement trouver sa place. En effet, dans la fratrie, on peut dire que chaque enfant est différent, ça tous les parents de familles nombreuses le savent très bien, et chacun va développer un peu son talent, sa spécialité. Et bien le petit dernier, quand il arrive en dernier, beaucoup de places, beaucoup de cases sont occupées et remplies, donc il va falloir être inventif pour trouver une place différente. Alors ça peut être aussi un comportement différent des autres frères et sœurs, qui s'ils sont tous sages, eh bien peut-être que le petit dernier, pour se démarquer, va lui au contraire devenir particulièrement rebelle, juste pour exister. Effectivement, donc ainsi, le dernier a la difficile tâche de trouver sa place quand d'autres sont passés avant lui. Et puis, les psychologues expliquent également que le petit dernier, en quelque sorte, a une place particulière dans la famille et dans l'économie du couple de ses parents. Parce que, en effet, c'est celui qui va, au fond, mettre un terme à la période de fécondité du couple de ses parents. Du coup, c'est un rôle qui pèse sur les épaules d'un dernier de famille. Et on observe parfois que, notamment peut-être un peu plus chez les mamans, qui réalisent consciemment ou inconsciemment que ce sera leur dernier enfant, qu'après cet enfant, leur fécondité s'arrêtera. Eh bien, du coup, bien sûr, si c'est la fin de la fécondité, ça nous amène vers l'idée d'un vieillissement de la maman. Et pour empêcher le vieillissement, la tendance naturelle, eh bien, va être de garder ce petit dernier enfant petit le plus longtemps possible. Et on a vu ainsi des petits derniers surcouvés, surprotégés, qu'on a du mal à laisser grandir. Oh oui, cette petite robe à smock, elle est tellement mignonne, avec oh c'est tellement mignon, les câlins de mon garçon. Oui, mais la difficulté ou le piège, c'est de laisser malgré tout grandir ces enfants qui, comme tous les autres, un jour deviendront des adultes et ne seront plus des petits. Donc voilà, l'enjeu d'un petit dernier peut ainsi s'exprimer de la sorte, un enfant qu'on va avoir un peu plus de mal à laisser grandir, dont on va admirer au contraire tout ce qui le rattache à la petite enfance. C'est une autre des tendances enfin, une autre dépendance possible, hein. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, mais les psychologues ont analysé ce type de comportement qui est plus marqué avec un dernier de famille. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette place particulière du dernier. Il y a une autre place qui, elle aussi, même si chacune des places a son, comme je l'ai dit, chaque place, chaque enfant doit trouver une façon d'exister différemment de ceux qui l'ont précédé. Donc chaque place va conditionner ses comportements pour se démarquer. Des frères et sœurs, et dans les traditions par exemple, on sait très bien historiquement que les cadets de famille, ceux qui n'avaient pas la chance d'hériter du domaine, eh bien, partaient justement pour trouver leur place dans le monde, pour courir le monde et l'aventure, et c'est ainsi qu'on en retrouvait souvent à l'étranger. Alors, donc ça c'était la place du cadet. Celle qui a une place tout à fait particulière dans une fratrie, c'est aussi le premier-né, celui qu'on appelle l'aîné. Effectivement, l'aîné, les psychologues nous le disent, autant le dernier met fin à la fécondité d'un couple parental, autant le premier-né ouvre cette période de fécondité et fait passer le couple des parents, justement du statut de couple à celui de parent. Et évidemment, l'équilibre, tous les parents qui ont eu des enfants le savent, l'équilibre est à reconstruire, même s'il est à reconstruire à chaque arrivée d'un nouvel enfant. Eh bien, cette place de l'aîné est tout à fait particulière parce que c'est, comme on le dit en langage courant, celui qui va essuyer les plâtres, c'est celui qui va le premier nous permettre, à nous parents, de faire nos expériences. Alors évidemment, c'est tout cela peut être un peu déstabilisant. On a peur de mal faire quand on est parent pour la première fois. On a des idéaux très forts en tête, ce que l'on a trouvé dans les livres, ce dont on a hérité dans nos familles. Oui, dans ma famille, par exemple, tous les enfants marchent à 12 mois. Alors donc, ce premier-né, si pour montrer qu'il est l'héritier de cette lignée, devra marcher à 12 mois. Alors qu'en est-il s'il ne marche pas à 12 mois? Cela peut créer des inquiétudes. Donc nous avons ainsi ces sortes de schémas idéaux et effectivement, notre premier-né, on aura envie, peut-être davantage que les autres, qu'il se conforme à nos attentes, à nos idéaux, que nous avons donc encore une fois hérités, soit de nos lectures, soit de nos familles. Alors, ça peut être vertueux parce que c'est ainsi qu'on pourrait repérer un décalage chez un premier-né par rapport à l'image ou les étapes de développement que l'on a bien appris dans nos livres. Ça pourrait permettre de repérer un retard, un décalage, et l'on sait fort bien, grâce à l'avancée de la médecine, que plus ces décalages ou ces retards éventuels, voire ces avances, hein, quand il s'agit de précocité, sont pris en charge tôt et plus on peut accompagner l'enfant au plus près de ses besoins. Donc c'est important. Effectivement, de pouvoir prendre conscience de ce décalage entre l'enfant idéal et l'enfant réel que nous avons. Mais lorsqu'il n'y a pas de pathologie, ça peut aussi être un poids pour cet enfant qui se sent toujours appelé à performer. On a ainsi des aînés qui témoignent plusieurs années plus tard qu'ils avaient l'impression qu'à chaque fois qu'ils réussissaient un nouvel exploit, eh bien, il fallait accomplir un exploit suivant, puis un exploit suivant, et que cette course aux exploits, pour correspondre à l'image que les parents se faisaient de l'enfant idéal, ou tout simplement pour obtenir la satisfaction de ce jeune couple parental, jeune, pas forcément en âge, mais en expérience, bien sûr, eh bien, ont été pesants. Et on pesait, et ainsi on a parfois, les psychologues constatent que les aînés vont développer des profils un petit peu différents, pétris des responsabilités, ce sont parfois, disent-ils, des enfants plus sérieux, des enfants également, comme on leur demande de se conformer à un idéal, qui vont parfois être particulièrement performants, notamment dans, dans les matières scolaires. Et des chercheurs aux États-Unis ont fait un lien assez fort, statistiquement, entre les génies et la place dans la fratrie. Ainsi, ils ont remarqué que Léonard de Vinci ou Albert Einstein étaient des premiers de famille. Donc je souhaite à tous les enfants, premier-nés et les autres, de devenir un jour des génies, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça pourrait s'expliquer avec ce que je viens de vous analyser, c'est-à-dire, en fait, ces premiers de famille sont performants parce qu'ils ont quelque part cette injonction de performer, de se conformer à un modèle idéal. Évidemment, ça ne veut pas dire que le premier de famille aura volé tout le potentiel de QI. Évidemment, des enfants brillants, il y en a à toutes les places de la famille. Et si, par exemple, un enfant premier-né, peut-être une fille, assez scolaire, réussit bien à l'école, l'enfant suivant pourra, si c'est un garçon, vouloir égaler les performances de sa sœur et devenir aussi brillant, voire même plus brillant que la sœur aînée. On a vu des familles comme ça où le second enfant pouvait, en sautant une classe, rattraper l'aîné de famille et se retrouver dans la même classe ou dans le même niveau de classe. Alors évidemment, ça pose d'autres problèmes de compétition, de menace, parce que l'aîné peut se sentir menacé dans sa position de premier. Et il faut être vigilant lorsqu'on a comme ça des rattrapages. On connaît aussi tous ces, entre deux garçons par exemple, celui qui est né en deuxième va finir par rattraper en taille ou en exploit physique ceux de son frère aîné. Donc attention à ces rivalités entre frères et sœurs qui peuvent bien sûr arriver entre le premier et le deuxième, mais entre deux places différentes, quelles qu'elles soient dans la famille, que ce soit entre le numéro 2 et le numéro 3, entre le numéro 1 et le numéro 4. Bon, l'écart d'âge fait que le quatrième rattrape rarement le premier, mais entre deux enfants successifs, cette problématique de rattrapage et de compétition ou de rivalité peut être assez flagrante. Et les psychologues recommandent toujours, à l'arrivée d'un nouvel enfant, aux parents d'être vigilants. Parce que pour un enfant de 2 ans qui sera le grand, la différence entre un câlin de tendresse et un câlin qui pourrait être étouffant au sens propre, parce que inconsciemment, ce nouveau venu qui dérange, eh ben, on voudrait bien qu'il disparaisse. Hein. On connaît tous la réflexion de ces enfants qui, au bout de quelques temps, disent à leur maman « Bon, ça y est, on a bien joué, le bébé c'était très bien, mais maintenant on va le rapporter à la maternité. » Ou on va le rapporter, enfin bref, on sent bien que ce nouveau-né modifie l'équilibre et qu'on pourrait s'en passer. En tout cas, c'est une menace pour l'enfant juste avant. Donc, toujours faire attention. Ces pulsions de jalousie, d'envie, de vouloir faire disparaître celui qui est né après soi sont assez naturelles. Donc, comment réagir devant ces pulsions qui peuvent nous déranger, nous désarçonner, eh bien, ne pas les nier, parce qu'elles sont naturelles, ne pas les encourager, évidemment, être vigilant les accompagner, bien sûr, et les verbaliser. C'est peut-être bien un des rôles clés des parents, la verbalisation, aider l'enfant à mettre en mots ce qu'il ressent, parfois confusément ou même inconsciemment, envers ses autres frères et sœurs, que ce soit de la jalousie, de l'envie. Il me semble que c'est du rôle des parents, évidemment, de faire attention, de verbaliser avec l'enfant, oui, tu es jaloux. Alors, c'est comme ça, c'est pas bien d'être jaloux, c'est mal d'être jaloux, il n'y a pas à culpabiliser l'enfant. La jalousie est un sentiment, on n'a qu'à voir dans la Bible déjà, Abel et Caïn, par exemple, l'enfant prodigue, le retour de l'enfant prodigue illustre bien aussi la jalousie de l'aîné, donc c'est un sentiment qui existe, hein, on ne va pas le nier. En revanche, l'accompagner et rassurer tout simplement l'enfant jaloux, le rassurer sur sa valeur propre. Parce que effectivement, c'est aussi une des problématiques des familles nombreuses ou des familles à plusieurs enfants, à partir de deux enfants, ça se passe. Eh bien, rassurer chacun des enfants sur la place particulière qu'il a dans le cœur, dans notre cœur de nous parents. En effet, c'est pas... Le cœur ou l'amour d'un parent ne va pas se diviser entre le nombre d'enfants, parce que ça voudrait dire qu'il s'amenuise. Donc du coup, pour un enfant, quelle que soit sa place dans la fratrie, l'enjeu serait de perdre un peu de l'amour de ses enfants. Non, expliquer à l'enfant que oui, on va peut-être avoir un petit peu moins de temps à lui consacrer. Ce qui se partage, c'est le temps disponible. Et c'est notre rôle de parent de veiller au maximum de nos possibilités, bien sûr, à garder pour chacun des enfants, pour chaque place dans la fratrie, un temps, si possible, privilégié, seul à seul avec cet enfant, parce que le but, c'est bien de le rassurer sur sa valeur propre et pas sur sa valeur comparative. Évidemment, c'est un poison dans une fratrie que la comparaison avec les autres enfants. Imaginez un enfant de... Voilà, quand on dit à un enfant « Ah ben regarde ton frère, lui, ta sœur, elle », évidemment ça le dévalorise, quelle que soit sa place dans la fratrie, mais ces comparaisons sont un poison. Là-dessus, tous les spécialistes de l'enfance vous diront ce qui est important pour un enfant, quelle que soit sa place, c'est d'avoir sa valeur propre. Et c'est ainsi qu'il restaurera ou qu'il développera sa confiance en lui-même et pas des comportements inspirés quelque part par la jalousie ou l'envie d'être aussi bon que ce grand frère dont on nous rebat les oreilles. C'est très difficile de faire une place au soleil quand toute la journée on vous dit « Ah ben oui, mais ton frère, lui, ta sœur, elle ». Non, c'est très très difficile pour un enfant ensuite de trouver sa confiance en lui. Donc ça, c'est un problème non pas de numéro dans la fratrie, mais de comportement. Évidemment, dans la place dans la fratrie, il y a les relations entre frères et sœurs, mais il y a aussi le rôle des parents. Et certains spécialistes ont même trouvé qu'il y a des résonances ou des liens particuliers qui peuvent se créer entre le numéro dans la fratrie de ses enfants et le numéro que le parent lui-même avait dans sa propre fratrie. Ainsi, par exemple, un papa qui était numéro 3 pourra avoir une tendresse particulière pour un numéro 3. Une maman qui a souffert d'une sœur aînée aura plus de difficultés à appréhender le comportement de sa fille aînée envers une petite sœur, numéro 2, etc., etc. Donc, à nous, parents, d'être vigilants sur les projections que l'on peut faire, car nous aussi, nous étions des enfants avec un numéro dans une fratrie. Même si nous devenons parents un jour, nous pouvons avoir été des petits derniers. Et peut-être que cette place de petit dernier va nous inciter, si nous n'y prenons pas garde, à avoir un écho particulier avec notre petit dernier dans nos enfants. Donc, à nous, parents, de savoir, là encore, il ne s'agit pas de corriger, mais il s'agit juste de repérer pour avoir conscience des liens, des comportements que peuvent engendrer cette place dans la fratrie. Alors, pour terminer très rapidement, on pourrait évoquer ceux qui ont la même place dans la fratrie. Qu'en est-il des jumeaux ? C'est une place particulière dans la fratrie, bien sûr, quel que soit le numéro d'arrivée dans la famille. Donc cette place, est-ce qu'ils sont un ou est-ce qu'ils sont deux? Donc voilà ce que disent là aussi les psychologues et les spécialistes de l'enfance qui ont parfois des témoignages assez poignants, c'est que effectivement il y a deux individus, donc ils ont bien une place particulière chacun et dans la mesure de ses moyens, essayer là aussi de différencier dès les premier moment de la vie, ces deux individus, si l'on veut, qui auront de toute façon un lien privilégié, puisqu'ils sont arrivés en même temps dans la fratrie, en tout cas les différencier pour que chacun puisse développer tout le potentiel de sa personnalité propre, sans se rattacher toujours à quelqu'un d'autre, ce qui le ferait rentrer dans un lien de dépendance affective. Donc ça, c'est le cas des jumeaux. Ils sont effectivement, ils occupent la même place dans la fratrie, mais ils sont bien deux ou trois quand il s'agit de triplés. Et donc là encore, garder à chacun sa place propre dans ce rang d'arrivée identique afin que chacun des enfants, qu'ils soient jumeaux, triplés, voire quadruplés, puisse développer tout le potentiel de sa personnalité entière. Et puis, dernière place particulière, l'enfant unique qui, en quelque sorte, réunit toutes les places en lui-même, qui est à la fois un aîné et un petit dernier. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on remarque ? Peut-être que ces enfants uniques qui vont avoir un lien particulier avec les adultes puisqu'ils sont entourés dans un monde d'adultes. Alors évidemment, pour ne pas les faire grandir trop vite, peut-être les parents peuvent veiller à lui proposer des activités avec des enfants de son âge, bien sûr, pour que ces enfants uniques dont on dit souvent qu'ils sont un peu trop sages ou qu'ils ont grandi un peu trop vite, et c'est le témoignage qu'ils donnent parfois, on leur a volé leur enfance, en cela ils peuvent le partager avec un aîné à qui on aura fait prendre en charge un petit peu trop tôt le reste de sa fratrie. Un ami témoignait comme ça du fait que lorsque ses parents, très vite, pour faire des économies de babysitter, confiaient à cet aîné tout le reste des enfants pour pouvoir prendre un petit peu de temps en couple au moment d'une soirée, ce qui est bien légitime, eh bien, en fait, ça avait généré beaucoup d'inquiétudes, de peur, d'angoisse, de responsabilité. Que se passera-t-il si je n'arrive pas à faire face? Si un de mes petits frères ou petites sœurs a un problème, que se passera-t-il? Et si quelqu'un nous attaque? Enfin bref, toutes ces peurs enfantines démultipliées par la responsabilité qu'on confie à un aîné. Donc, il faut faire attention de ne pas substituer les rôles et garder même à nos aînés, bien sûr qu'ils ont à cœur de nous aider dans l'éducation de leurs petits frères et sœurs, mais bien leur garder leur place d'enfant pour que là aussi, cela n'induise pas ensuite des souffrances parfois pas forcément très conscientisées, mais en tout cas des impacts sur le développement de la personnalité avec peut-être des aînés un petit peu plus sujets à l'angoisse, déjà qu'ils ont envie de performer et de bien faire. Ne leur rajoutons pas en plus ces inquiétudes et ces angoisses en leur confiant trop tôt des responsabilités. Et ça se partage avec un enfant unique, qui est aussi un petit dernier, qui est le seul, qui peut donc aussi souffrir d'être couvé, surcouvé, qu'on ne le laisse pas grandir. Ce sont des choses qu'on trouve chez les enfants uniques aussi parfois. Enfin, un enfant unique n'ayant pas de lien direct quand il est seul chez lui, peut-être les enfants uniques développent-ils une imagination un peu plus fertile en s'inventant des histoires, en s'inventant des amis, des frères et sœurs qui n'existent pas. Il n'est que de relire ce livre assez poignant de Philippe Grimbert qui s'appelle « Un secret » où effectivement un enfant va s'inventer un frère idéal, ce qui permettra de lever un secret de famille douloureux sur cette famille durant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pour finir sur cette place dans la fratrie.
Delphine Fardeau, j'ai souvenir d'une famille de trois enfants. Oui. Donc vous parliez de la comparaison qu'il peut y avoir que les parents peuvent faire entre les frères et sœurs. Néanmoins, les parents peuvent Même si, et dans ce cas-là, ce n'est pas volontaire, bien sûr, avoir une préférence pour un des enfants de la fratrie, comment ne pas montrer cette préférence? Et je vais juste vous raconter l'histoire
D'accord.
d'une famille où justement il y avait une préférence pour un des enfants. Donc trois enfants, l'aîné était une fille, donc le cadet un garçon et ensuite le dernier était une dernière, une fille. Et la fille aînée est devenue anorexique. La raison qu'elle disait, c'était que ses parents avaient une préférence pour la petite dernière. Bon, ça s'est malheureusement mal terminé car elle est décédée à l'âge de 18 ans de son anorexie. Alors, je ne dis pas, je ne suis pas en train d'effrayer les parents qui auraient une préférence pour un de leurs enfants, mais justement, comment ne essayer de ne pas exprimer cette préférence?
Alors, cette histoire me touche particulièrement, effectivement, parce que les préférences dans les familles, là, vous nous avez donné un exemple assez fort pour montrer combien elles sont délétères. Alors, Dieu merci, comme vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas, d'abord, il n'y avait pas d'acte volontaire de la part des parents, et ça n'est pas toujours aussi dramatique, mais merci de cet exemple, parce que oui, les comparaisons et les préférences sont assez délétères. Alors, comment les éviter? Comment ne pas les montrer? J'ai envie de dire, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire tout d'abord, comme je vous l'ai dit, s'appuyer sur ces travaux de recherche qui ont été faits. Il y a des échos particuliers parce que nous-mêmes, nous avons été des enfants avec une place dans une fratrie. Et donc, il y a des échos particuliers, des liens privilégiés qui peuvent se tisser avec telle ou telle place dans la fratrie de nos propres enfants. D'accord? Donc, première chose, peut-être repérer cette préférence qui, là encore, c'est comme tout à l'heure, je vous parlais de la jalousie, c'est une pulsion naturelle. On a des affinités électives, dans nos amis, c'est la même chose. Voilà, on a des liens naturellement qui vont aller plus vers tel ou tel de nos enfants. Avec tel ou tel de nos enfants, j'ai un lien privilégié parce que je comprends comment il fonctionne, parce que ça me rappelle mon fonctionnement, parce que quand je m'exprime, je suis entendue. Quand il s'exprime, je comprends exactement ce qu'il veut dire. Donc oui, c'est comme ça. Alors, il me semble que la première chose à faire, ce serait surtout de le reconnaître en soi. C'est très important parce que si on le nie, effectivement, comme vous disiez, c'est inconscient et dans ces cas-là, par maladresse, ça peut faire encore plus de dégâts, comme vous nous l'avez bien montré dans cet exemple. Donc déjà, le reconnaître en soi et ensuite, alors il ne s'agit pas de lutter contre parce qu'il me semble que dans la façon... Enfin, dans tout ce qui est esprit humain, psychologie, la lutte conduit rarement, enfin, conduit à la tension et donc à des tensions maximales, ce qui n'est pas du côté de l'apaisement et du lâcher-prise qui serait plutôt l'objectif à atteindre. Donc, une fois qu'on l'a reconnu en soi, eh bien, essayer de l'analyser pour voir effectivement, bon ben voilà, c'est comme ça. En revanche, toujours s'efforcer pour soi-même et pour les autres de nos enfants, de voir dans chacun de nos enfants ce qu'ils ont de merveilleux à nous apporter. Par exemple, j'ai moi aussi trois enfants, en plus, voilà, fille, garçon, fille, dans le même ordre que la famille dont vous nous parliez. Et en fait, je disais toujours à ma fille aînée, bah, tu es ma première fille, cette place-là, on ne te l'enlèvera jamais. Pour la conforter dans sa place-là, je disais à mon fils, eh bien, tu es mon seul garçon. Alors oui, c'est la place du milieu, mais tu es mon seul garçon, tu es mon premier garçon, tu es mon seul garçon. Il a donc une place particulière. Et je disais à ma fille dernière-née, eh ben, tu es ma dernière fille, et donc ça, personne ne te prendra ta place non plus. Donc, rassurer chacun des enfants. Verbaliser à chacun des enfants qu'il a sa place propre et de toute façon, qu'on soit le numéro 4 ou le numéro 8, on restera le numéro 4 et on restera le numéro 8. Voilà, personne ne peut nous voler cette place. Donc vraiment rassurer l'enfant sur la place qu'il a. Peut-être quand ils sont un peu plus grands, verbaliser honnêtement, oui, il est plus facile pour moi de communiquer avec ton frère ou ta sœur. ne pas s'en cacher, parce que nier, encore une fois, la négation, le non-dit, on sait combien ça peut faire du mal dans une famille. Donc, être honnête, il est vrai que, alors avec un constat le plus objectif et le plus neutre possible pour ne pas blesser, il est vrai que je comprends plus facilement ce que me dit ton grand frère, ta grande sœur, ton petit frère, ta petite sœur. Il est vrai que je suis plus sensible à l'humour de ton petit frère. Il est vrai que, voilà, mais, et c'est là que c'est important, mais avec toi et trouver, effectivement, chacun de nos enfants étant merveilleux, il a forcément quelque chose, il y a forcément quelque chose qu'on apprécie chez lui, mais je sais qu'à toi, je peux faire davantage confiance, mais j'aime tellement quand tu joues de la musique, mais tes blagues me font tellement rire, mais je ne sais pas, tes performances sportives, je les admire tellement. Enfin bref, trouver, donc reconnaître en soi, reconnaître en partie en adaptant bien sûr avec un langage le plus objectif possible pour ne pas blesser l'enfant et en tenant compte de son âge et lui. Et puis trouver dans chacun de nos enfants ce qui nous émerveille en eux, au fond. C'est ça notre rôle de parent. Donner à chaque enfant sa place propre, sans nier si effectivement, comme vous le dites, ça arrive, on a des affinités avec chacun de nos enfants.
Alors Delphine, nous avons une auditrice qui souhaiterait témoigner. Il s'agit de Marie Lourdes. Marie Lourdes, c'est à vous.
Oui, et oui, bonjour madame. Votre bonjour. Les dernières phrases que vous avez dit là correspondent absolument à ce que j'ai pensé, mais je vais quand même dire ce que je dois dire. Dans ma famille, c'est une famille très nombreuse. J'avais 5 enfants, maintenant 14 petits-enfants et une arrière-petite-fille. La jalousie, c'était très, très difficile. Et mon mari, qui n'est plus de ce monde, avait une préférence pour mon troisième enfant, une fille, et sa sœur qui était la deuxième, l'a détestée, vraiment détestée, du plus profond de son être jusqu'à elle est décédée maintenant. Et je sais que ma fille a beaucoup souffert de ça et elle en souffre encore. Donc la préférence, je pense qu'il ne faut pas, il faut vraiment les parents qui écoutent, il ne faut pas dire que je préfère tel ou tel enfant, mais dire comme vous avez dit, moi c'est ce que j'ai dit après à mes enfants, j'ai des affinités avec l'un ou avec l'autre, il y a un qui me comprenne un peu mieux quand je parle, il y en a qui ne veulent pas comprendre du tout, on ne peut rien y faire, mais je pense que comme vous avez dit ce que je voulais dire, qu'il faut avoir des affinités et les faire comprendre que si un peut m'écouter, l'autre ne peut pas m'écouter sur tel ou tel sujet. Voilà. Mais c'est très, très bien tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup.
Merci, c'est gentil, mais c'est vrai que c'est un sujet qui va avec la place dans la fratrie, c'est cette histoire de jalousie, et bien sûr que ça crée des tensions, et tout le monde en souffre, je le sais parce que je le vois chez mes propres enfants, ou dans ma propre famille, ou dans la famille de mon mari. Effectivement, celui qui subit la jalousie en souffre, mais c'est celui qui est à l'origine de la jalousie, s'il est jaloux d'ailleurs, c'est parce qu'il souffre aussi. Donc effectivement, il me semble que le rôle des parents, c'est vraiment un rôle éducatif pour moi qui est un fondement de l'éducation, c'est la vigilance. On ne peut pas s'empêcher, vous le dites très bien madame, on ne peut pas s'empêcher la sensibilité de tel ou tel enfant me correspond pas, correspond mieux à mon mari, etc., à son grand-père, à sa grand-mère. Donc oui, il y a des affinités. Mais notre rôle de parent, c'est vraiment la vigilance. Reconnaître ce qui est et être vigilant pour que justement ces déséquilibres ne s'installent pas trop fort, car oui, ça l'a créé des dégâts dans toutes les familles, et on connaît tous, et alors ces dégâts qui déjà existent au quotidien, comme vous en avez témoigné, avec des enfants qui parfois se détestent profondément, ne s'adresseront plus la parole une fois adultes, et quand ensuite ils se retrouvent autour d'un héritage à partager, on sait tous les conséquences dramatiques que cela peut avoir sur les relations entre les frères et sœurs, ou enfin dans les familles en général. Donc oui, vraiment la vigilance des parents, faire attention, c'est tout simplement ça. Éduquer un enfant, c'est aussi faire attention à tous nos enfants, à chacun de nos enfants.
Là, je vous dis encore merci beaucoup.
Voilà,
Oui,
merci.
merci à vous de ce témoignage important.
Merci
Oui, au revoir,
Marie-Lourde.
madame. Merci.
Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci Delphine Fardeau pour ce temps que vous nous avez consacré aujourd'hui pour parler de la place dans la fratrie.
Je vous remercie de m'avoir donné ce moment d'expression, cet espace d'expression, et je serai ravie de vous retrouver pour une prochaine fois.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.